finalement, à l'œuvre pratique, le titre que j'ai choisi, explique peut-être l'influence, la résidence, c'est un titre qui peut être un peu provocateur, d'une part pour le monde médical, parce que pour la schizophrénie, parler de guérison est quelque chose de très inhabituel, on reviendra sur, sur cette question, et puis surtout pour les patients et leur famille, confiés en souffrance, en longue souffrance, hein, et donc de prononcer le nom de guérison, le mot de guérison, peut être effectivement autour de sens. Hein, et j'espère que la présentation, enfin, la discussion que j'aurai aujourd'hui avec vous permettra sûrement de préciser un petit peu le sens de ma pensée. En même temps, je pense que d'oser prononcer le mot de guérison pour la schizophrénie n'est pas sans impact, et en particulier pour revoir un petit peu le pronostic qui est irrémédiablement actuellement associé au projet de schizophrénie. Et ça, ça me paraît tout à fait important de pouvoir le faire dans le titre un petit peu particulier que j'ai souhaité développer, de savoir si on pouvait guérir la schizophrénie. Alors déjà, je crois que la question a été posée la semaine dernière au docteur Rodier, qui a certainement rebâché le ballon, rattrapé le ballon, en disant que je poserai la question au docteur Rodier. Qui me dit tiens, quand même, toute la difficulté qu'on a à aborder cette question, et alors que finalement, pour de très nombreuses autres pathologies, il n'est pas difficile de parler de guérison. J'ai vu tout à l'heure avec Vitel, où le docteur Gachi parlait de guérison d'un syndrome dépressif. Finalement, les gens rechutent aussi, les gens ne sont jamais à l'abri de pouvoir refaire une dépression. Et pourtant, on parle de guérison dans la dépression. Alors, pourquoi parler de ça? Je vérifie le temps. Alors, la question peut paraître effectivement un petit peu iconoclaste, mais on n'est pas habitué en psychiatrie parce que, à parler directement à propos de la schizophrénie, parce que, justement, dès sa naissance, au moment de la démence précoce de Guy Crételin, eh bien, finalement, le pronostic venait confirmer les choses. C'est-à-dire que le pronostic, la réalisation qui a reçu était intimement liée. Et finalement, on est beaucoup resté sur cette conception très quotidienne d'une question impossible. Finalement, une fois qu'on est chez diagnostiqué de frais, rester souffrant de cette pathologie pour. Alors, ensuite, Eugène Delmer, qui a créé le mot de schizophrénie, n'est pas venu radicalement remettre en question cette incurabilité de la schizophrénie, mais lui, c'est battu pour montrer que finalement, l'évolution démentielle des supposés traitements n'était pas irrémédiable. C'était déjà un premier progrès. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une évolution dégénérative de la maladie au fur et à mesure qui faisait que les gens allaient évoluer irrémédiablement vers une démence très toxique. Donc, Eugène Goyer a remis ça en question. Aujourd'hui, je pense que le travail des associations a beaucoup fait venir en question la médecine sur cette pathologie en particulier. Et les pathologies mentales en général. Parce que, en étant médecin, on est médecin. Et en étant médecin, ce qui va beaucoup nous intéresser et nous préoccuper, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à guérir, c'est-à-dire que la maladie n'existe plus. Alors voilà, vous avez une grippe, vous avez une angine. On donne des antibiotiques, on vous les lit, on vous donne un, et au bout d'un certain temps, on a guéri la maladie, et vous ne faites pas les complications post-rétrotoxiques qui peuvent survenir après. dynamique que l'on va en tête. Ce modèle médical, s'il est valable pour un certain nombre de pathologies, il n'est pas forcément adaptable à toutes les pathologies, en particulier aux pathologies mentales. Et là, il y a sûrement d'autres dimensions qui sont à prendre en compte. Or, il y a trois chapitres que j'aimerais aborder. C'est finalement, quand on parle de schizophrénie, de quelle schizophrénie parle-t-on ? Ça, ce serait peut-être la deuxième partie. Je ne sais pas encore dans quel sens. La première ou la deuxième, donc l'autre, sera la question de quelle guérison parle-t-on ? Et ça, ce qui est entendu par guérison n'est pas forcément la même chose dans la tête de chacun. Ce n'est pas forcément la même chose dans la tête du grand public, des patients, des médecins, des étudiants en médecine. La guérison va recouvrir un certain nombre de réalités qui sont différentes. Et on va y revenir. Et ça, je pense que ça sera à vous aussi de dire ce que vous en pensez. Et puis la troisième, au-delà de ça, il y a quand même une série d'études extrêmement intéressantes sur le très long cours, sur l'évolution au très long cours de groupes, on appelle ça des cohortes de patients de schizophrénie, et qui montrent que le pronostic est de loin pas négatif pour un certain nombre de patients. Alors là, c'est toujours extrêmement difficile, puisqu'il y a à peu près moitié des patients qui évoluent bien dans ces grands corps, et moitié qui évoluent de façon difficile, avec un handicap encore qui est extrêmement sévère, avec de très nombreuses années d'évolution, et même en dissocié des patients qui évoluent tardivement vers des tableaux, effectivement, là, très sévère de l'équipement. Ça dépend comment on a écrit le message, c'est le verre à moitié plein, à moitié plein. Alors, la première question est de savoir finalement de quelle guérison on parle. Pour les médecins, la guérison, ça va être la guérison symptomatique. Est-ce que l'ensemble des symptômes dont souffrent les patients, qui définissent la maladie, ont disparu ? Ne sont plus présents, et même au-delà de ça, et à ce moment-là, que le patient en est plus un, il n'a plus de risque de refaire la même maladie. Par exemple, pour dire des choses qui sont appliquées, et il n'y a pas plus de risque, on n'a pas plus de risque après que le reste de la population de refaire une angine. Là, est-ce que ça aussi, ça existe pour les patients qui souffrent de schizophrénie? Si on pose la question de définir la guérison, alors, par exemple, pour des étudiants en médecine, pour des internes en psychiatrie, la guérison, c'est considéré comme être guéri par le psychiatre. C'est-à-dire, c'est le psychiatre qui va faire le diagnostic de guérison, et va dire, ben voilà, il n'y a plus de signes cliniques, il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus de délire, il n'y a plus d'hallucinations, et le patient a recouvert toutes ses capacités, il est comme il était avant. La deuxième possibilité, c'est finalement permettre que le patient reconnaisse et accepte sa maladie et de vivre avec sa maladie son pour les patients, c'est assez différent, c'est ne plus avoir besoin de médicaments. Moi, je rajouterais peut-être aussi de ne plus être hospitalisé. Avoir un emploi fixe et avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Et là, on voit que finalement, ce qu'on peut entendre par guérison est assez différent et va être aussi sûrement variable d'un patient à l'autre. On sait par exemple que certains patients gardent des symptômes de la maladie, mais finalement, qu'ils arrivent à faire avec, qu'ils arrivent à se débrouiller dans l'existence, à parfois les mettre fait, ces idées ou ces phénomènes, comme les hallucinations à distance, ne plus être conservés et finalement pour pouvoir s'intégrer dans le reste de leur existence, dans les relations avec, avec les proches, dans une relation, dans une activité professionnelle. Et ça, ce sont des patients, et un exemple tout à fait remarquable est celui de alors c'est très célèbre, c'est très particulier, mais celui de John Nash, que je pense que chacun d'entre vous connaît. Et donc John Nash était un chercheur en mathématiques hein, qui travaillait sur la théorie des jeux, qui très jeune a fait des découvertes mathématiques extrêmement importantes qui ont été utilisées ensuite en économie par exemple. Comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, il y a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux qui avaient été très possibles. Et puis, après, rapidement, il a déclenché des troubles schizophréniques, un trouble schizophrénique. Il a été hospitalisé, il a eu différents traitements, donc des cures de séquelles. Il a donc vécu une existence difficile, que vous connaissez tous, avec des moments de rechute, une mise aussi à l'écart, finalement, de l'université, où il a continué quand même à travailler. Mais au fur et à mesure de son existence, il a pris une certaine distance avec ses symptômes et il a pu mener une vie tout à fait correcte, confiée. Et quand on lui parlait de ses symptômes lorsqu'il a reçu le prix Nobel d'économie, donc tardivement dans son existence, c'est qu'effectivement, ses symptômes étaient toujours là, mais ne le concernaient plus directement. Il arrivait à faire avec, à se détacher finalement. Émotionnellement, intellectuellement, des symptômes qu'il vit. Ça, c'est des patients qui continuent à avoir des symptômes et un handicap. Il y a une série d'études, donc, comme je l'ai dit, tout à fait concordantes, c'est-à-dire que toutes les études sur le très long cours qui ont été menées, ces études qui sont très difficiles à faire, mais il y en a 7, je crois, qui ont été critiquées. La première, par Manfred Bleuler, le fils d'Eugène Bleuler, puisqu'à l'époque, il suivait, il pouvait suivre, vivait avec ses patients, il suivait les patients sur le très long. Là, toutes ces études sont concordantes pour confirmer de façon concordante que un grand nombre de patients guérissent de leur schizophrénie. Alors, là, qu'est-ce qu'ils entendent par guérir de la schizophrénie? Eh bien, c'est un qui n'ont plus de. Alors, les critères sont différents d'une étude à l'autre. Mais une étude, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qu'on appelle l'étude du verbe. C'est-à-dire que, et ça, c'est une étude dont j'aimerais parler, parce qu'elle est représentative de ces différentes études longitudinales sur le très long cours, où les patients vont être suivis pendant 10 à 30 ans. Dans le Verbon, ils avaient des hôpitaux, des asiles, hein, avec des patients qui étaient là, toute leur existence, pendant de très nombreuses années, sur le modèle qui après a eu au 19e et 19e siècle. Et puis, il y a eu une volonté de ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que de pouvoir faire sortir les patients de l'hôpital, de pouvoir les faire réintégrer une vie dans la communauté générale. Je pense que ça a été favorisé effectivement aussi par l'arrivée des médicaments qui a permis effectivement d'atténuer un certain nombre de symptômes difficilement compatibles avec une existence dans la communauté à ce moment-là. Mais je pense qu'on pourra en reparler. Des médicaments, c'est pareil, je pense qu'il faut l'indiquer des consensés, des pensées que c'est la seule solution, ni non plus les démoniser, des pensées que ça ne sert à rien, mais je pense que ça sera sûrement une partie. En tout cas, dans cet hôpital du Vermont, ils ont décidé de mettre en place un programme de réhabilitation psychosociale extrêmement important, avec des aides, des aides au retour dans, dans la vie de père, un certain nombre de patients portent donc à être, et que les patients puissent vivre en dehors de l'église. Une fois que ce programme a été mené à bien pendant plusieurs années, il est resté dans l'hôpital quelques centaines de patients qui n'avaient pas réussi à faire vivre à l'extérieur. Donc des patients extrêmement sévèrement atteints et ils ont mené un travail d'études particulier chez ces patients en les calculant, en les analysant très attentivement sur les plans cliniques, sur les plans symptomatiques et là ils ont décidé de vraiment mener un travail encore plus important. Ils ont suivi ces patients au fur et à mesure, donc c'est 150 patients, 200 patients, je vais vous donner les chiffres en fait exactement, sur plusieurs années. Au bout de 5 à 10 ans, les patients vivaient à l'extérieur, mais restaient quand même fortement dépendants de l'institution, avaient besoin d'une aide importante auprès d'eux pour mieux leur vie. Mais au bout de 20 à 30 ans, donc sur le très long cours, hein, et c'est finalement comme la pathologie commence vers 20 ans, hein, c'est-à-dire que vers 40 ou 50 ans, hein, et bien la moitié de ces patients qui ont été retrouvés, donc ils ont retrouvé plus de 90% des patients, c'est un niveau très durable, je ne sais pas, et bien vivaient guéris de leur schizophrénie. Alors là, pour revenir à peut-être que ça veut dire que guéris de la schizophrénie, bien, il n'avait plus de contact avec le milieu médical et le milieu psychiatrique, il ne prenait plus de traitement. Pour certains, occupait un emploi, il avait des relations amicales diverses et variées, ils avaient des activités sociales, et donc tout un ensemble de choses qui font dire que oui, on a une vie qui est plus marquée, peut-être par le handicap, de la vie. Et certains vivent très bien, mais le vernis est un côté très grave, justement, qui va faire que les gens s'en prêtent plus dans les grandes villes, où vous connaissez cet anonymat, et puis le stress est très important, les structures sociales, les structures de famille sont plus présentes, les patients, enfin, dans leur vie, dans leur vie. Et là, il y a l'étude qui a été menée ensuite et qui montre effectivement que dans des régions plus urbaines, sur le très long cours, le pronostic est plus facile. Et quand vous lisez, alors il y a une étude de soins au Japon, vous avez dit, voilà, c'est une étude qui a été menée dans les années 60. Aujourd'hui, à l'époque, on ne savait pas les critères diagnostiques de la schizophrénie. Maintenant, on est beaucoup plus précis. Et c'est peut-être pour ça que c'était des patients qui étaient diagnostiqués à l'ordre du français. Bien, le Fang a repris tous les patients, a reposé a posteriori, évidemment c'est plutôt complexe, mais les critères diagnostiques modernes de la schizophrénie. Et pourtant, chez les patients, les études, façon de son étude, est tout à fait concordante pour trouver que le pronostic pour la moitié des patients environ est plutôt favorable à très favorable. Et donc, ces études sur le très long cours sont venues remettre en question l'idée comme ça de la durabilité de la schizophrénie. Alors, on ne dit pas que tous les symptômes avaient disparu, que les patients étaient aussi peut-être à l'aise ou avaient la même vie que des personnes qui n'avaient jamais été malades, mais en tout cas, on pouvait considérer quand même qu'ils menaient une existence normale et satisfaisante. L'autre message de l'étude du vernis, c'est extrêmement important. C'est est-ce que finalement c'est une évolution naturelle de la maladie? Et finalement,
patients,
trois phases, un certain nombre de patients évolueront bien et d'autres moins bien, indépendamment de ce que l'on peut mettre en place sur le plan des soins au sens le plus large du terme. Parfois que des soins médicaux et des soins qu'on peut proposer à nos proches ou à nos aux autres soi-même. Eh bien, l'étude du dernier a eu un pendant qui a été mené ensuite dans un état voisin, le Maine. On est toujours aux États-Unis. Et donc, dans le Maine, ils ont aussi mené une cohorte bien suivie comme ça des patients parallèlement, mais sans qu'il y ait tout ce travail de rééducation psychosociale qui est extrêmement attentif qui avait été mené dans dans l'état du labo. Et là, il a été montré que l'évolution des patients était plus favorable dans le Japon. Là où elle avait été mise en place, c'est la prise en charge psychosociale par rapport au mec où ce n'avait pas été. Et donc ça, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de patients qui vont permettre que le pronostic de la maladie eh bien, soit plus ou moins favorable pour les patients. Et le fait de mettre en place des méthodes de rééducation auprès des patients, des méthodes de communication, comme on a parlé du docteur Rodé la semaine dernière, auprès des proches, auprès des familles, faire que le regard de la société sur les patients de mettre en place des soins médicaux, d'éviter peut-être un certain nombre d'excès qui peuvent être associés à la pathologie. Par exemple, l'utilisation du cannabis pour un certain nombre de patients. Eh bien, va avoir le rôle des proches et de permettre comme ça un environnement structuré, du temps, de l'attention, etc. Tout ça, on sait que c'est associé aussi à un pronostic plus favorable de la pathologie dont souffrent les patients. Donc ça, c'était la question de la guérison. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un certain nombre de personnes dans le milieu psychiatrique, mais aussi dans le milieu médico-social, qui vont plutôt s'intéresser à la récupération des capacités sociales, de travail, du patient, l'intégration dans des groupes, plutôt qu'à la guérison symptomatique. Et là, je pense que c'est un travail tout à fait important à mener parallèlement. Et là, il n'exclut pas forcément l'autre, mais l'un ne se résume pas Alors, ensuite, est-ce que tous les patients le font? Donc, la schizophrénie est quand même une grande énigme. Et on sait quand même aussi que les patients vont être très différents les uns des autres, dans, bien sûr, en tant que personne, mais aussi dans les difficultés personnelles, dans les symptômes qu'ils présentent. Là, il y a deux visions de conception s'affrontent un petit peu. Est-ce que c'est finalement une même pathologie avec des visages différents, mais avec finalement un processus commun quand même, situé sur le plan physiopathologique, ou est-ce qu'il existe différentes pathologies de nature différente? Actuellement, on revient à l'idée quand même que le terme de schizophrénie, on recouvrerait des pathologies possiblement différentes les unes des autres, certaines évoluant très rapidement, malheureusement, comme le dit le chrétien, dans l'existence du sujet, par un affaiblissement des capacités intellectuelles, des capacités du sujet, et un jeune patient, enfin un jeune qui va très bien, qui marche bien à l'école, qui a des copains, etc., en quelques années, bien, va avoir une évolution déficitaire extrêmement sévère et qui va rester déficitaire tout au long de cette année de son existence. Et ça, ce sont des formes très précoces, souvent, des évolutions plutôt dégénératives. Par contre, on voit aussi ces patients qui vont connaître des grandes périodes symptomatiques extrêmement florides, avec des symptômes extrêmement présents, délirants, hallucinatoires, qui peuvent durer plusieurs mois, un, deux ans, et qui vont ensuite totalement récupérer de leur capacité, de leur possibilité. Ils vont totalement critiquer ce qui s'est passé, avoir un recul par rapport à aux idées qu'ils présentaient à l'époque. Alors évidemment, ce n'est pas sans conséquence, passer une à deux années à un moment clé de l'existence, souvent au moment de la post-adolescence, de l'adolescence, de la jeune année, au moment où il faut rentrer dans la vie active, réussir dans le quotidien de vie actuel, réussir dans les études, obtenir un métier, trouver des amis qui vont, c'est souvent ceux-là qui vont rester aussi peut-être s'investir dans une profession. Et si à ce moment-là, il y a cet épisode, évidemment que indépendamment du génie ou du propre de la maladie, ça va avoir des conséquences. Le regard des autres ne sera plus le même. Les entourages sauront que cette personne peut à un moment quitter le monde du commun, avoir une symptomatologie peut-être qui paraître tout à fait inquiétante. Le patient ne peut pas plus avoir aussi confiance en lui, se demander si ça va pas recommencer, comment le faire. Et puis, évidemment, il y a les effets, il y a les médicaments qui peuvent aussi aggraver ou alourdir le pronostic en entraînant certaines assurances à la vie extérieure. Et donc, on est souvent pris entre la nécessité de détecter un certain nombre de symptômes et au prix souvent lourd de fatigue, d'un désintérêt, d'un manque d'investissement, d'un perte d'initiative. Voilà, qui sont à la fois sûrement liés pour une part à la maladie, mais aussi au traitement. Et là, est-ce qu'il y a aussi, il faut être. Vous avez vu, je pense que le regard qu'on pose sur l'évolution des troubles, là, ça participe aussi au changement du pronostic de ces troubles. Épisodique, peut-être en prescrivant moins longtemps les traitements, en apprenant au sujet à repérer les signes précoces, et donc à faire une psychoéducation là-dessus sur à quel moment je sens que les choses vont moins bien, à ce moment-là je reprends un petit peu de traitement, je reprends la contact plus fréquent avec le psychiatre. Donc je pense que pour ces formes-là, le regard qu'on pose dessus va permettre aussi d'en améliorer le pronostic. Voilà un peu ce que je souhaitais dire pour la question de la schizophrénie. Je pense qu'on peut laisser la chose. Merci.